feu d'Alan Moore. Si on vous en parle, vous allez voir, c'est pour tout simplement parce que l'album qui sort chez Panini ce mois-ci, qui regroupe, on va dire, la première partie des épisodes de d'Alan Moore sur la série. Alors, très vite, on va replacer la situation. Wildcat, c'est la série de Jim Lee qu'il a lancée lorsqu'il a rejoint le label Image. Donc, il a d'abord fait avec son ami d'enfance, Brandon Choi, comme co-scénariste. Mais aussi, il a très vite su s'entourer d'autres scénaristes, comme Chris Claremont et James Robinson, qui ont étoffé un petit peu les premiers épisodes de Jim Lee et de Brandon Choi. Donc, l'arrivée d'Alan Moore sur la série n'est pas vraiment une surprise, bien qu'il fasse son grand comeback, on va dire, dans les comics mainstream, même s'il avait déjà fait un peu de Spawn. Le but d'Alan Moore, en fait, ce qui l'a fait accepter, c'est vraiment le défi d'écrire une série de super-héros modernes, lui qui n'avait pas touché aux super-héros depuis les Watchmen, on va dire, une dizaine d'années auparavant. Et donc, il arrive, il débarque un peu... Après une opération éditoriale, puisque lorsqu'il arrive, les Wildcats sortent un grand crossover qui s'appelait Wild Sun Rising, où en fait les héros se sacrifiaient, on va dire, puisque issus d'une race extraterrestre, ils décidaient de reprendre leur vaisseau d'origine pour repartir vers leur planète. Pour éviter que le vaisseau explose et fasse exploser la Terre, donc un crossover un peu débilos, on va dire, mais c'est sur ces bases que Alan Moore arrive. Et que fait Alan Moore? Eh bien, il va imposer une structure assez particulière à la série, pour le coup, puisque les épisodes sont, enfin, le corps des numéros sera centré sur les Wildcats d'origine qui se retrouvent donc sur leur monde d'origine, tandis que sur Terre, eh bien, deux héros, Majestic et Savant, des partenaires des Wildcats, décident, en mémoire de leurs amis qu'ils pensent morts depuis, décident de reformer une équipe. Et ça va donner lieu déjà de la part de Moore à une certaine critique, une certaine caricature, des héros des années 90, en fait, en disant que les équipes sont toutes faites pareilles, avec deux trois greluches, un mec costaud et deux trois célébrités. Donc le casting sera d'ailleurs assez croquignolé, avec tous les héros des séries Wildstorm qui passeront fugacement pour refuser tout simplement une place dans les Wildcats. Et en fait, l'équipe de Majestic et Savant sera finalement composée de nouveaux personnages. Cody Sunred, qui est le frère de Grifter, qui est un super canardeur, on va dire. Lady Tron, une femme cyborg qui est très terroriste, très violente. Et un personnage très intéressant aussi qui s'appelle Tao, qui est l'acronyme de Tactically Organisme. J'ai oublié le nom du A, tout simplement. Et Tactically Augmented Organism, qui se retrouve être en fait un personnage hyper intelligent, extrêmement intelligent. Et ce sont ces cinq personnages qui vont former les Wildcats sur Terre. Pendant ce temps, tout simplement sur Kera, la planète d'origine, les Wildcats découvrent un monde fasciste, on va le dire. Ils découvrent que le paradis qu'ils avaient perdu est aussi un paradis un peu perverti. Notamment en découvrant, ils vont découvrir que la guerre pour laquelle ils se battaient contre une race extraterrestre maléfique, les démonites, est tout simplement finie depuis 300 ans, que personne n'avait pensé à les prévenir, qu'ils se battaient pour rien sur Terre. Cette révélation va les pousser dans leur retranchement. Les personnages vont devenir assez pathétiques et assez pas du tout positifs, en fait, passant leur temps à s'engueuler, tout simplement. Ce sera l'occasion aussi pour Moore de dépeindre une société extraterrestre, très fasciste, donc on l'a dit, avec des castes, avec énormément aussi, ça lui permet aussi énormément de, de pousser des idées de SF assez surprenantes qu'on n'a pas l'habitude de forcément de voir dans des comics de Jim Lee, donc avec des choses comme la BD de l'ombre, des variations arithmétiques des sables, donc des choses vraiment qui haussent sa série à des niveaux qu'elle n'avait vraiment jamais eu. Et donc cette structure particulière va permettre aussi de faire tourner énormément de dessinateurs, puisque à la base cette série devait être dessinée par Trevi Charest, mais ce dessinateur étant depuis reconnu comme un des dessinateurs les plus lents, il a un style magnifique, il faut le dire aussi, qui nécessite un gros travail, mais il ne peut décemment pas tenir un rythme mensuel. Donc on aura droit à de nombreux dessinateurs comme Kevin McGuire, Scott Clark, Jason Johnson, Ryan Benjamin, et aussi Dave Johnson, qui lui par contre, dans ce magma, enfin, Kevin McGuire aussi, mais c'était plus fugace, Dave Johnson lui dessinera une grosse partie de tout ce qui est la partie terrienne. Et ce dessinateur qui a dessiné aussi la mini-série Superman Red Son est vraiment très talentueux et il ne dépareille pas forcément à côté de Trevi Charest. Trevi Charest qui arrive quand même à produire quelques planches, dont le magnifique épisode 25 qui est tout bonnement superbe, qui est un long épisode qui est vraiment magnifique. Alors tout ça pour dire que ces épisodes de Wildcats apporte des éléments très importants à la série, tout simplement parce que Moore opère un virage à 180 degrés, il les coupe complètement de l'enjeu principal qui était la guerre contre les démonites. Mais surtout, il réinvente aussi donc toute une mythologie, puisqu'il propose des origines à tous les pouvoirs des héros. Chaque membre des Wildcats se retrouve en fait un représentant de la caste de la planète Kera, donc on sait d'où viennent leurs pouvoirs, ils donnent une certaine logique à leurs pouvoirs. Mais surtout, donc, si on l'a dit, s'il coupe la série de son enjeu principal, il pose aussi les bases de la suite avec une guerre des gangs qui va commencer à poindre sur Terre, avec la fameuse figure du Tao, ce personnage très, très énigmatique, se trouvait extrêmement intelligent, qui se trouve surtout manipuler tout le monde et qui va envoyer tous les héros Wildstorm dans une guerre des rues, qui sera l'enjeu du deuxième tome, si deuxième tome il y a, chez Panini. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces numéros ont imposé aussi des héros, des personnages même encore maintenant sont utilisés dans l'univers Wildstorm, comme on l'a dit, Tao, qui est devenu le vilain, attitré de tout l'univers Wildstorm, parce qu'il apparaît dans Slipper et même il apparaît dans les épisodes du renouveau Armageddon et des choses comme ça. Et D-Tron aussi est resté parmi les Wildcats, c'est devenu une figure importante par son côté, par son mauvais caractère et puis son design aussi, qu'on peut dire, qui est dû à Trevi Charest, mais aussi qui est très réussi. Donc c'est vraiment une série qui valait son pesant de cacahuètes, et qu'on vous conseille donc d'aller lire chez votre libraire, puisque ça sort en français là pour la partie en tout cas du moins.
Voilà, donc c'était déjà sorti chez Semic. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quand même la première œuvre finalement du renouveau d'Alan Moore à avoir un succès critique. C'est-à-dire qu'on a eu des succès d'Alan Moore dans d'autres œuvres qu'il a fait dans ces époques-là. Mais c'est la première dont vraiment les gens ont été surpris du succès. Après, il y a eu Suprême, évidemment, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Mais Suprême, c'est vraiment le titre, quand Alan Moore est arrivé dessus, tout le monde a dit « là, ça va déchirer ». Wildcats, c'est le titre qui a déchiré en soi, mais dont les gens s'attendaient pas. Il avait quand même fait le Spawn Wildcats avant, qu'on devrait finalement avoir en France fin 2009 ou début 2010, pardon. Il avait fait des séries Spawn, dont le pathétique Spawn Blood Fun, dont certains de nos amis ont commencé à lire des comics avec ça.
Tu oublies quand même aussi son travail inachevé avec 1963.
Voilà, dont Alain nous a parlé également il y a 15 jours, et qui là, effectivement, n'est pas un échec hein, en soi, mais c'est vrai que ça laissait quand même sur sa fin. Et finalement, on était encore un peu dans le côté parodique quand même sur 1963. Ça poussait pas effectivement à la réflexion comme le fait Suprême sur le même thème.
Ouais, c'est Walkes, on peut vraiment dire. Il continue quand même, il y a quand même par-ci par-là des pointes sur justement ce second degré, cette réflexion sur la BD qu'avait Alan Moore à cette époque. Ce qui est énormément de réflexion sur les héros de l'époque, beaucoup plus violents, qui sont souvent des caricatures.
Si on était méchant.
Tron est souvent une grosse fan, par exemple, de Overkill, qui est un robot cyborg destructeur créé par Todd McFarlane.
Rob Liefeld et Jim Lee, qui sont tous les trois co-créateurs.
Oui, voilà.
Stan Lee, pardon. C'est Stan Lee qui possédait les droits d'Overkill avec Todd McFarlane et Rob Liefeld. C'est la seule participation de Stan Lee pour le truc, et on comprend pourquoi il n'y a jamais eu de Stan Lee chez Image.
Quelle puits de science, Tony. Je ne savais pas non plus. Donc,
Dieu.
Mais effectivement, il y a vraiment cette réflexion un petit peu sous-jacente sur les héros qui n'ont plus de guerre, et puis sur cette mode sur les héros à la mode, beaucoup plus violents, et qui sont l'objet de figurines et de merchandising.
Ouais, mais c'est vrai que Alan Moore avait quand même... ce qu'on pouvait dire quand même de l'univers d'Image à cette époque, avec entre Stormwatch ou Wildcat SWAT, c'est qu'en fait, les créateurs avaient des idées, avait des éléments de base, mais après comment le faire vivre tout ça, réellement exploiter leur concept, en fait ils n'y arrivaient pas. Et c'est vrai que c'était quand on regarde bien sur ces deux séries, c'était quand même Alan Moore qui a permis sur les Wildcats de faire décoller la sauce, après qui n'a jamais fonctionné. Une fois qu'il est parti, c'est retombé très très rapidement jusqu'au numéro 50. Et en fait, après, c'est au volume 2 avec Joe Casey c'est reparti. Et on a eu exactement la même chose avec Stormwatch, où tu regardes, il y avait quand même une base intéressante qui avait un potentiel, mais en fait, c'est que lorsque Warren Ellis est arrivé, qu'il a repris pourtant que les éléments qui avaient été, à part 2-3 créations de personnages, mais il a repris tous les éléments qui avaient été largués à droite et à gauche par les créateurs précédents, et qu'il a réussi à en faire quelque chose.
Voilà, sachant que sur Stormwatch, on avait une série qui avait vraiment jamais été à la tête, effectivement, de l'intérêt des lecteurs, alors que sur Wildcats, on était quand même sur une série qui avait eu son succès, qui était quand même une des séries de base. Rappelons-nous de ces planches quadruples, avec Zilot allongé de ton son dans le numéro 5, qui était, comment dire...
Too much.
C'est un euphémisme du plus bel effet.
Oui, et puis avec les clins d'œil pour voir Jean Grey et Scott Summers.
Ouais, mais ça, c'est drôle.
Ouais.
Ça, à la limite, c'est drôle.
Oui, mais à partir de ce moment, quand ça commence à devenir un gimmick, puisqu'on revoit ce genre de clin d'œil un peu partout dans tout le temps, sans plus. Non, par contre, ce que j'avais aussi trouvé intéressant, c'était le côté un petit peu humour que Alan Moore pouvait apporter, avec le côté, la recherche d'un petit poil de réalisme. Enfin, réalisme, on met quand même les guillemets, mais c'est vrai que lors des entretiens d'embauche pour essayer de constituer l'équipe, avec Savage Dragon qui commence à poser la seule question qui tue, et bon, qu'est-ce que vous proposez comme couverture sociale, comme assurance maladie? Et ça, c'est quand même un des premiers qui avait osé sortir ça dans un comics. Et ça apportait un petit truc, quoi.
Voilà, surtout que c'est une question en plus qui est quand même très récurrente chez tous les auteurs de comics quand ils signent des contrats, puisque eux sont tous en freelance autrement. Donc ça, c'est vrai que c'est assez drôle. Maintenant, ça reste quand même une bonne série. C'est quand même parmi les meilleures séries de super-héros des années 90. Ça forme un ensemble qui est très cohérent, très efficace, qui n'a pas besoin de référence pour se lire. C'est-à-dire que vous pouvez...
Autonome.
Voilà. Si vous n'avez aucune référence en comics, on va plus vous conseiller quand même ces Wildcats que le Lost Girls.
Oui, et puis enfin, c'est pas tout à fait le public.
Voilà, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'autres, j'ai envie de dire que c'est une des œuvres les moins référentielles de Jim Lee.
Oui.
D'Alan Moore. Parce que c'est une œuvre qui ne se fait pas référence à d'autres œuvres.
Oui, et puis d'Asson, pour lui, c'est une œuvre de commande. Donc d'Asson, c'était de l'alimentaire avant tout, soyons clairs.
Ouais, mais enfin,
ça n'empêche pas d'apporter quand même un professionnalisme et un peu une pointe de personne. Voilà.
Le niveau de l'écriture remonte en flèche, même les routiers comme Robinson ou Claremont à côté. Qui avait officié juste avant, on
sent
très très loin. Il y a
vraiment
des.
Ouais, je suis d'accord.
Sachant que le pauvre Claremont, quand même, à l'époque, avait un projet de série qui s'appelait Winter, il a fait un arc dans les Cyber Force et un dans les White Cats pour présenter son personnage. Il n'a jamais trouvé un dessinateur pour dessiner sa série chez Image.
Oui.
Donc voilà, c'est quand même effectivement aussi les marques de la limite de ce qu'il avait pu faire et proposer. C'était quand même une grosse déception pour lui. Et c'est vrai que c'est, je pense, le plus gros échec de la carrière de Claremont d'ailleurs.
Sovereign Seven aussi a pas été mal.
Sovereign Seven a été très mal vendu, mais Sovereign Seven c'est fait. Et Sovereign Seven, moi je suis désolé, c'est une série que je défendrai.
Moi aussi, mais je les ai, et puis j'avais beaucoup aimé le travail du dessinateur à l'époque aussi.
Après, il y a effectivement juste un moment où Sovereign Seven, ça nous a été vendu comme les nouveaux X-Men, alors que c'était seulement une réflexion sur l'insertion des étrangers dans le fin fond des États-Unis.
Oui, et puis bon, rien que pour une série qui réussit à mettre en scène Darkseid, se taper un cappuccino dans un bar paumé en plein milieu des États-Unis, non, ça c'était quand même too much.
Ouais, mais ça faisait partie aussi du charme de la série.
Tout voilà. Fait.
Donc on en revient quand même à cette série White Cats. Donc c'est bon, lisez-en. Tout le monde est d'accord. Voilà, je pense
en
que
plus même pour les amateurs, enfin c'est des numéros qu'on arrive à trouver facilement en VO à des prix très.
Et si vous êtes un amateur des bouquinistes, on vous invite à aller voir tous vos bouquinistes et à faire le tour, et vous allez bien retrouver un moment ou un autre
oui,
des épisodes de la version intégrale White Cats.